Comme nous l'avons annoncé lundi dernier, notre étude de ce matin aura pour toile de fond la parabole du riche insensé, telle qu'elle nous est rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 12. La foule qui entourait Jésus au moment où il prononça cette parabole se comptait par milliers, au point de se fouler les uns les autres, précise l'évangéliste. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. La question est inattendue. Le plaignant s'adresse à Jésus comme à un maître dont l'autorité est déjà établie. Vraisemblablement fort de son droit, il se plaint d'avoir été frustré de sa part d'héritage. On suppose que le frère aîné, au lieu de se conformer au Deutéronome qui lui attribuait les deux tiers de l'héritage, avait gardé le tout sans se soucier de remettre à son frère plus jeune la part qui lui revenait de droit. C'est cette intervention qui va amorcer la parabole. Jésus ne se préoccupe pas de juger les affaires matérielles de ce monde, et certainement il n'a pas l'intention de s'imposer comme un arbitre de conflits familiaux. Il profite de cette intervention, que le plus grand nombre sans doute a entendue, pour déclarer « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Le principe général que Jésus illustrera par la parabole du riche insensé dévoile le caractère vain des entreprises et des attitudes humaines, lorsque celles-ci n'ont d'autre objectif que l'argent. L'homme d'alors comme l'homme d'aujourd'hui est comme obsédé par l'ambition de posséder toujours davantage. Il se prosterne en quelque sorte devant la toute-puissance de l'argent, au point de ne voir que par l'argent, de ne travailler que pour lui, de ne vivre que pour lui. Inévitablement, l'anomalie de son attitude lui fera sous-estimer tout ce qui ne peut être évalué par l'argent. Jésus entreprend de ramener les hommes à leur bon sens, en leur montrant avec une logique désarmante ce que leurs yeux, cupides, refusaient de voir. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Avec ce sujet, nous sommes plongés d'emblée au sein de la grande tragédie des hommes, pour ne pas dire comédie. Des hommes qui ne voient que ce qui est visible, qui ne croient qu'en ce qui est palpable, qui n'ont confiance qu'en ce qui rapporte, pour qui les valeurs spirituelles ne sont pas des valeurs. Ce sont des éternels que la mort n'atteindra jamais. On ne peut s'empêcher d'évoquer ici la pensée ironique de Pascal. Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, se sont avisés pour se rendre heureux de ne point y penser. Pourtant, la réalité est implacablement présente. Nous sommes tous des morts en villégiature, selon l'expression de Maeterlinck. L'épître de Jacques remarque « Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Pour illustrer notre folie, Jésus nous propose la parabole suivante. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » La récolte a donc été bonne. Or, il était déjà riche. Le voilà embarrassé, obsédé par le problème du logement et de la sécurité de ses biens. Il réfléchit longuement, intensément. On devine sa fièvre, sa sourde angoisse. Puis il prend une décision. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'y amasserai ma récolte, mes biens, je dirai à mon âme. Pas une pensée vers Dieu, ni vers les hommes, ses frères, sans lesquels il n'aurait pas tout ce qu'il a. Il communie avec lui-même. Toute la laideur, tout le gluant de son égoïsme sont ici soulignés. Enfin, ses richesses vont lui procurer une vie heureuse, en marge de tout souci. Il se réjouit d'avance. Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit, on va te réclamer ton âme. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il se croit sage. Il n'est qu'un insensé car il a cru que ses richesses pouvaient lui assurer une longue vie et il a organisé cette vie comme si ses biens suffiraient à tout, le préserverait de tout, même de la mort. Mais sa vie ne lui appartient pas. Elle ne dépend pas de ses richesses. Elle est entre les mains de Dieu. Il n'aura même pas le temps de réaliser ses projets. Cette nuit même, sa vie lui sera réclamée. Il va devoir la rendre au maître de la vie. Ses biens, il lui faudra les quitter sans même savoir à qui ils iront. Il a tout perdu. Dans ce récit et dans toutes les autres références bibliques, Dieu ne condamne pas les richesses en elles-mêmes. Être riche n'est pas un péché. Certains le sont bien malgré eux. C'est l'attitude de l'homme vis-à-vis des biens de ce monde que Dieu dénonce. La folie de l'homme qui donne priorité et exclusivité aux valeurs matérielles sur les valeurs spirituelles. La folie qui consiste à identifier la vie avec les richesses. Sur ce point, il faut d'ailleurs faire une remarque. On connaît bien ce dicton. L'argent est la racine de tous les maux. Si cette affirmation est assez bien connue, on ignore assez généralement qu'elle est tirée de la Bible. Or, il s'avère que cette citation fait violence au texte biblique. En effet, la Bible n'attribue à l'argent aucun pouvoir maléfique, comme notre dicton le laisse supposer. Elle souligne plutôt que c'est l'attitude de l'homme qui décide de tout. Voici d'ailleurs le texte biblique en question, tel qu'il se trouve dans l'Épître à Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a en effet une différence. Les conseils aux riches sont des mises en garde contre la tentation que constitue l'abondance des biens, en ce qu'ils engendrent une soif insatiable de posséder davantage. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, c'est l'apôtre Paul qui parle, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Parallèlement, Jacques prononce un réquisitoire effrayant contre ceux qui se sont enrichis par malhonnêteté, en frustrant leurs ouvriers de leur juste salaire. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. La parabole met en relief trois autres réalités. Tout d'abord, le fait que le bonheur qu'on espère enfin trouver dans les richesses est toujours une chose future, mais ce futur n'arrive jamais. S'il mange à sa faim et s'il est bien logé, le riche est néanmoins souvent préoccupé, voire même angoissé par les soucis inhérents à toute gérance importante. Est-il à l'abri de toute éventualité de faillite? A-t-il fait un bon placement? Cet investissement était-il sage? Deuxièmement, l'homme qui ne vit que pour l'argent est en réalité possédé par ce qu'il possède. Ce n'est pas à tort que Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et enfin, nous pouvons constater que riche ou pauvre, petit ou grand, la mort est pour tous un sort inévitable où s'établit le grand nivellement. Car comme il est sorti du ventre de sa mère, l'homme s'en retourne nu ainsi qu'il est venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Néanmoins, à partir de ce moment, une autre différence s'établit, qui renverse les rôles, car pour les uns, la vie n'aura été que l'antichambre de la mort, tandis que pour les autres, elle aura été la préparation à la vie éternelle. C'est en vue de cette réalité qu'ils auront investi dans les vraies valeurs de la vraie vie, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.